podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Better of Ted est une sitcom américaine diffusée entre mars 2009 et janvier 2010 sur le réseau ABC. La série a été créée par Victor Fresco, qui a fait ses gammes en tant que scénariste sur ALF, My Name is Earl, mais aussi en tant que créateur de Andy Richter Controls the Universe. Better of Ted réunit à l'écran Jay Harrington, le directeur d'école de Summerland, mais également agent du FBI dans The Inside, dans la tête des tueurs, et Portia de Rossi, mariée à Hélène DeGeneres, mais également la froide Neil d'Ali McBeal et la sœur de Michael dans Arrested Development. La parenté avec cette dernière série est d'ailleurs notable, tant le ton humoristique se veut proche de celui développé avec bonheur dans La Famille Blues. On analyse cette série en compagnie de Nathanaël Picasse et Sarah Sepulcre. La série, qui ne comptera toutefois que 2 saisons, soit 24 épisodes, et malgré une diffusion en Europe, n'a jamais rencontré le plébiscite du grand public. À tort ou à raison, c'est ce que Nat a tenté de savoir en se penchant sur la série.
En se penchant sur la série, on va d'abord raconter l'histoire, puisque a priori c'est pas une série qui est très connue. Je retrace un petit peu en quelques mots. On suit l'histoire de Ted, qui est un célibataire et papa d'une petite fille de 7 ans. Beau gosse, propre sur lui, à qui tout réussit a priori. Il est à la tête du département recherche et développement de la société Viridian Dynamics, une sorte de méga société internationale tentaculaire, tellement grande que l'on ignore ce qu'elle produit réellement. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir des extraits de publicité qui montrent ce que Viridian Dynamics fait, mais on ne comprend jamais réellement exactement.
Tout
ce qu'on sait avec une certaine certitude, en tout cas, c'est qu'elle dégage du profit, beaucoup de profit, et qui dit bien sûr profit à outrance, dit valeur humaine très variable, en tout cas morale très variable. C'est ainsi qu'on comprend quand même rapidement que l'entreprise fournit des armes dernier cri, puisque quand on fait dans la nouvelle technologie, évidemment, l'armée est toujours en train de se demander comment est-ce qu'elle peut exploiter cela. Et donc, la plupart des inventions sont utilisées à des fins maléfiques. Car sous les ordres directs de Ted, il y a 2 super scientifiques, Lem et Phil, qui inventent les objets les plus fous au gré des demandes de la société. Pourquoi cette société souhaite-t-elle que l'on crée ses inventions? Ben, parce qu'elle peut le faire. C'est toujours à ça la réponse. Pourquoi est-ce que vous voulez ça? Parce qu'on peut le faire, tout simplement. Alors, des inventions qui sont souvent aussi géniales que déjantées. On a bien sûr le détecteur de mensonges qui buzz à chaque fois que quelqu'un ne dit pas la vérité, ce qui amène à des scènes très drôles, puisque la plupart du temps, les gens ne savent pas à quoi sert cet appareil et on l'entend buzzer comme ça en arrière-plan dès qu'il y a une discussion, c'est très drôle. On a un traducteur universel qui est une sorte de gros appareil qu'on doit s'accrocher au niveau de la poitrine, on parle dedans, mais le problème c'est que le Ted tombe amoureux en fait à un moment d'une femme qui est allemande et donc qui se parle à travers ce traducteur universel, mais la voix du traducteur universel est celui du scientifique. Et donc c'est un petit peu désagréable quand ils sont au lit et que t'as le traducteur qui parle avec sa voix, oh oui, enfin ça pose problème à Ted, bref. On a aussi la lotion qui fait pousser des cheveux, mais le problème c'est qu'elle fait pousser des cheveux partout, et donc si on en a le malheur de le faire tomber sur le bureau, on a le bureau qui se retrouve tout chevelu.
Mais alors l'intérieur de la bouteille est plein de poils.
Oui, ça non, ça bizarrement non. Alors on a aussi du bœuf sans vache, un bio-ordinateur, le cryogénisateur, bref, j'en passe et des meilleurs. Dénué de tout scrupule, Viridian Dynamics testera chacune de ses nouvelles inventions dans le département, directement sur les employés, sans les habituelles précautions d'usage, évidemment. Autant le dire tout de suite, les employés en verront de toutes les couleurs, ce qui a le don de faire bondir Linda, une des testeuses de la société. Elle est décidée à garder un semblant de dignité humaine et de moralité, et donc elle tente par des petits gestes de rébellion de marquer sa différence, notamment voler les pots de crème pour le café, balancer des mannequins du haut de l'immeuble, lancer des donuts dans le système d'aération, ce genre de choses, mais c'est quand même des petits gestes qui ne changent pas évidemment grand chose. Ted ferme les yeux sur cette rébellion car il est indéniablement attiré par cette Linda. Et cette attirance est réciproque. Il est d'ailleurs très clair dès le début qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais évidemment, comme on est dans une série télé, on va compliquer les choses. Puisqu'en fait, Ted se refuse d'avoir une aventure avec elle, car il a déjà dépassé son quota d'aventure sexuelle au bureau, puisqu'il a couché avec sa propre patronne, Véronica. Cette dernière représente tout ce que la société a de plus immoral, entièrement centrée sur elle, sur les bénéfices qu'elle peut retirer de toute situation, glaciale, cassante. Elle est brillamment interprétée par Portia de Rossi, qui est vraiment on fire dans la série, elle est à fond. Sa dernière réussit quand même l'exploit de rendre ce personnage qui est profondément détestable en une garce adorable. Elle est selon moi l'un des atouts majeurs de la série. Elle fait peur aux scientifiques évidemment, puisqu'elle arrive toujours avec son air extrêmement froid à faire cette demande d'inventions plus folles les unes que les autres. Mais avec Ted, elle entretient comme une relation amouraine. On voit qu'ils s'aiment bien en fait tous les deux, et parfois on se demande même si les scénaristes vont pas les faire sortir ensemble, parce qu'il y a des étincelles entre ceux deux là et finalement c'est peut-être plus intéressant que la relation qu'il a avec Linda.
En général, c'est une actrice qui est vraiment assez parfaite dans son jeu, mais elle est pas en train de s'enfermer dans un rôle toujours un peu identique là.
Oui, là on a l'impression effectivement, quoique effectivement dans Arrested Development elle avait un petit peu changé de ce personnage toujours très strict avec le chignon etc. Et d'ailleurs ici elle reprend d'ailleurs le chignon de Nell. On a l'impression de voir Nell, mais en version je dirige une société maintenant. C'est vrai qu'elle est assez proche de personnages qu'elle a déjà joué avant, mais là elle le pousse vraiment au paroxysme. J'espère pour elle qu'elle jouera d'autres choses après, parce que sinon elle va s'enfermer là-dedans.
Votre département consomme trop de crème.
C'est important?
Ce n'est pas le fléau du siècle, mais c'est un problème.
Ted, il y a eu un... Oh, salut Véronica, tout va bien?
Salut Phil, vous êtes l'objet de ma présence ici.
Oh, vraiment?
Oui, partez maintenant.
Mais...
Je suis venue pour parler de vous, pas à vous.
Veuillez m'excuser.
Nous voulons congeler Phil.
Je vous demande pardon.
Phil ? L'entreprise voudrait le cryogéniser. Juste un an pour voir si c'est possible. Nous sommes confiants.
Vous pensez que c'est possible ?
Oui, monsieur le négatif, nous y croyons. Nous avons développé une solution qui nous permet de congeler rapidement du tissu animal vivant sans le faire exploser. Et, croisons les doigts, nous sommes prêts pour les tests sur l'homme.
Votre présentation craint. Et pourquoi Phil ?
Relations publiques oblige, ils veulent un employé. Et dans l'éventualité inouïe d'un incident fortuit, certaines personnes ici sont, comment dire, plus utiles.
N'oubliez pas de le lui préciser quand vous essaierez de le convaincre. Je vois où vous voulez en venir.
Vos gars feraient n'importe quoi pour vous, Ted. Ils ont... Comment on dit déjà ? Les soufis feront de la... loyauté. À vous de la susciter, c'est très important pour nous.
Bon, j'essaierai. Phil déteste le froid et disjoncte dans les espaces confinés. Alors cette mission n'est pas l'idéal pour lui.
Ouais, eh bien, à l'origine, ils avaient suggéré l'aime, mais congeler le noir de service, ils ne sont pas fous.
Tu nous disais tout à l'heure que c'est une série qui vaut la peine, qui en tout cas suit Aristide Development, mais tout ce que tu viens de nous dire, même si c'est bien joué, etc., c'est quand même... du déjà entendu, quoi, l'entreprise, le triangle amoureux, etc.
On est tout à fait d'accord, ça ne révolutionne pas du tout l'histoire de la sitcom, en tout cas au niveau de l'histoire et au niveau des personnages. Les personnages sont très caricaturaux, on a quand même le gentil héros propre sur lui auquel tout le monde peut s'identifier, la méchante patronne qui est une garce mais qui fait rire et donc qui est quand même très appréciée. On a la rebelle qui est jouée par Linda, à qui l'on souhaite que le héros finisse par sortir avec elle. On a les scientifiques, alors là j'ai un vrai problème avec ces deux personnages, ils sont geek, évidemment, puisque ce sont des scientifiques.
Mais non.
Ça... Donc voilà, alors là, on est en plein à pieds joints dans le stéréotype. Et non seulement ils sont geeks, la manière dont les acteurs le jouent, c'est presque du cartoon, en fait. Donc, moi, ça me pose problème au bout d'un moment, parce que les autres personnages, même s'ils sont un peu extrêmes, sont relativement... normaux, mais là, on est vraiment dans l'extrême total. Et là, le geek... je trouve que c'est quand même maintenant le passage obligé, j'ai l'impression, dans une série, et ça devient un petit peu lourd.
On a un peu l'impression que ces deux personnages sont sortis d'une autre série. Quand je les vois, j'ai l'impression qu'ils sont sortis de séries pour ados de type Nickelodeon,
oui.
Comme Ned, un espèce de guide pour survivre aux études, où tous les personnages sont un peu cartoonesques comme ça. C'est vrai qu'ils sont vraiment très décalés par rapport au reste de la série.
Du casting, ouais. Clairement, et on a l'impression qu'ils s'adressent effectivement aux enfants, par leur mimique, en fait, pour faire rire la jeune audience. Et moi, ça me pose problème parce que, voilà, je les trouve too much, clairement.
Et sinon, effectivement, concernant le duo de tête, c'est-à-dire le patron et l'employé, avec le patron très sévère qui est toujours en train d'houspiller son employé, qui est épouvantable, mais qui arrive à faire rire, c'est vrai que c'est pas neuf parce que, dans Ma sorcière bien-aimée, on avait déjà ça entre Alfred et Jean-Pierre Stevens,
oui.
Qui était un des running gags récurrents de la série.
Clairement, donc là, rien de nouveau sous le soleil, rien de nouveau non plus au niveau des situations qui sont parfois franchement éculées. Bon, l'environnement de travail dans lequel les personnages évoluent, le milieu de l'entreprise qui a été maintes et maintes fois utilisé.
Il y a une machine à café.
Il y a une machine à café, effectivement. Alors on a les dessous de Véronica, Ali McBeal qui ont déjà fait ça, The Office même, très régulièrement. Et on voit une certaine parenté d'ailleurs avec The Office. On a aussi le je t'aime moi non plus entre Ted et Linda, puisque dès les premiers épisodes, on voit qu'ils sont sexuellement attirés, enfin même amoureusement attirés, et puis on fait en sorte qu'ils ne sortent pas ensemble pour des raisons des fois un petit peu artificielles. Et évidemment, ils terminent la série ensemble.
Il suffit qu'elle tombe enceinte et c'est comme dans Bones, alors.
Elle sort avec un autre gars quand lui il a envie de sortir avec elle, ou alors enfin où il lui fait sa déclaration lorsque c'est dans situation d'urgence, mais une fois que la situation d'urgence est terminée, il lui dit ben non, finalement j'ai réfléchi, vaut mieux pas qu'on sorte ensemble. Enfin là on est vraiment dans le truc très éculé. La patronne qui se révèle avoir un bon fond aussi, ça a été aussi ultra employée. Et alors la fille du héros, qui est un personnage vraiment très secondaire, qui est la petite fille de 7 ans, mais qui se montre souvent plus mature que la plupart des personnages. Là aussi, on est dans le grand classique.
En effet.
Quelques particularités, parce que là, on a l'impression que c'est vraiment nul comme série.
Ça donne pas envie, effectivement.
Non. Quelques particularités, c'est que le personnage principal s'adresse à la caméra et donc au public. On n'est pas dans la sitcom classique, hein, donc 3 murs et puis le public qui fait le 4e mur. Donc on a vraiment l'impression qu'il est suivi par une équipe de télévision, à l'instar de Modern Family ou The Office. Mais il est par contre le seul à voir qu'il y a une caméra qui le suit. Donc on ne sait pas s'il s'adresse à une équipe de télévision ou il s'adresse à nous ou à sa conscience, peu importe. C'est un procédé qui avait été utilisé notamment dans la première saison de Sex and the City. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Ça a été oublié par la suite, mais effectivement dans la première saison, de temps en temps, Carrie se tournait vers la caméra pour nous parler.
Ce type de manière de filmer, moi ça m'a clairement fait penser aussi à Arrested Development.
Clairement,
c'est
oui.
C'est pour ça qu'il y a une filiation terrible entre ces deux séries.
On est tout à fait d'accord, parce qu'on est d'ailleurs dans une sitcom sans les rires ajoutés, tant mieux d'ailleurs, et dans une dynamique qui est très proche de Modern Family ou de Arrested Development, avec cette caméra qui suit les personnages, un humour à gogo et un rythme effréné. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux de mots, beaucoup de quiproquos, ce qui fait que parfois c'est difficile à suivre, même en VO, parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe, ou on n'a pas le temps de comprendre le quiproquo qui est en train de se mettre en place, et aussi un enchaînement de scènes très courtes. C'est difficile d'avoir une séquence de plus de 1 ou 2 minutes, c'est à chaque fois plein de petites scénettes qui s'enchaînent à une vitesse folle, sans oublier les innombrables flashbacks ou des mini-scènes qui illustrent une situation qui est en train de se créer. On est en train de dire, Véronica fait souvent des demandes à Ted, et puis on va avoir un enchaînement de scènes où on va la voir rentrer dans le bureau de Ted où elle fait des demandes, et donc ça va très vite. On a aussi beaucoup d'humour visuel au premier et au second plan, et puis après il y a cette particularité, moi, qui me fait beaucoup rire, c'est que chaque épisode est entrecoupé de fausses publicités institutionnelles de Veridian Dynamics, en rapport direct avec le thème et ou l'invention qui sont développés dans l'épisode. C'est une sorte de mini-reportage qui présente des personnages heureux dans leur environnement de travail ou les bienfaits que Veridian Dynamics apporte au grand public, le tout habillé d'une voix suave, réconfortante, mais chaque reportage finit invariablement avec un petit twist ironique, souvent très drôle et qui tourne en dérision ces reportages formatés.
Veridian Dynamics. Chaque jour, nous fabriquons quelque chose qui améliore votre vie. L'énergie, nous la fabriquons. La technologie, nous la fabriquons. Les vaches ? Oh non, nous ne fabriquons pas les vaches. Encore que nous avons fabriqué une brebis. Et des médicaments. Et des réacteurs d'avion. Et toutes sortes de choses, quelles qu'elles soient. Veridian Dynamics, chaque jour, nous fabriquons quelque chose qui améliore votre vie. Enfin, en général. Veridian Dynamics, une vie meilleure.
J'ai le meilleur boulot du monde.
Nous voulons un métal aussi dur que l'acier et qui rebondisse comme du caoutchouc. Et qui soit comestible.
Nous pouvons le faire. Je supervise un département de recherche et de développement d'une des plus grandes entreprises d'Amérique. Veridian Dynamics. Véronica est ma patronne.
Nous avons besoin d'une souris qui supporte des températures supérieures à 91 degrés.
Nous pouvons le faire. Et une souris d'ordinateur ou un rongeur?
Je reviens vers vous.
De nouvelles découvertes attendent chaque jour qu'on les imagine.
Une souris d'ordinateur.
Plus facile. Nous pouvons tout fabriquer. Produits industriels, biopharmacie, cryogénie, technologie militaire.
Nous avons projeté d'armer une citrouille.
Vos souhaits sont les miens. Pourquoi faire ?
Un des pays avec lesquels nous travaillons produit un grand nombre de citrouilles et souhaiterait diversifier leur utilisation. Tout comme un moyen moins coûteux de tuer leurs ennemis.
Eh bien, la citrouille aura enfin une autre finalité qu'Halloween.
La tarte.
Halloween et la tarte.
Dans les autres séries sur les entreprises, on était parfois dans de l'humour un peu sur des situations très concrètes. Je pense par exemple à Caméra Café, etc. Ici, c'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même une vraie thématique ou des vraies thématiques qui sous-tendent tout ça.
Ouais, il y a une vraie thématique qui est pour moi une critique des méga entreprises. C'est vraiment là que se situe la force de la série, puisqu'elle critique vraiment ces entreprises qui sont tellement grandes qu'elles sont inhumanisées et puis aux valeurs morales qui sont franchement contestables. C'est ainsi qu'on assiste entre deux éclats de rire à des utilisations, des nouvelles inventions qui tournent mal, mais pour lesquelles la société persiste à utiliser, car elles ont coûté beaucoup d'argent. Un exemple tout simple, ils ont décidé de changer tous les détecteurs de mouvement qui permettaient aux portes de s'ouvrir, à la lumière de s'allumer quand on entrait dans une pièce, à l'ascenseur de fonctionner, parce qu'en fait ils ont trouvé un nouveau système, c'est le réflecteur de lumière, parce que ce réflecteur de lumière détecte la lumière qui réfléchit par notre peau, et donc c'est à ce moment-là que ça se met en action, ce qui en soi est une idée géniale, formidable. Sauf que il y a des noirs qui travaillent dans l'entreprise et que le noir ne réfléchit pas la lumière.
Ou pas de la même manière.
Non, et pas de la même manière. Et donc, tous les noirs se retrouvent ainsi devant porte close, ne peuvent plus utiliser l'ascenseur, et ils veulent se servir de l'eau, mais l'eau ne coule plus, évidemment, puisqu'on ne le détecte plus. Alors, plutôt que de remplacer ce système et revenir à l'ancien, puisque c'est un nouveau système qui a coûté 10 millions, Viridian Dynamics a trouvé la solution, qui est d'adjoindre à chaque personne noire un employé blanc qui a pour but de suivre et donc de détecter, pour mettre en marche les détecteurs. Évidemment, c'est une idée formidable, mais bon, ce qui donne des situations très drôles où on voit à chaque fois effectivement un noir qui est suivi systématiquement d'un blanc qui le suit tout penaud.
On imagine ce que ça peut donner aux toilettes avec la chasse automatique.
ça n'est pas développé dans la série. Mais par contre, ce qui pose d'autres problèmes en termes de questions d'embauche et de respect, bien sûr, de la diversité et de la législation, puisqu'on ne peut pas engager un blanc parce qu'il est blanc, ni un noir parce qu'il est noir. Donc, pour compenser, Viridian Dynamics engage d'autres noirs. Mais évidemment, ça pose un problème vu qu'ils n'arrivent pas à détecter, c'est pas détecté, donc il faut engager d'autres blancs, donc il faut engager d'autres noirs. Oui. Et donc, ils arrivent à faire une réunion pour se dire, ben voilà, on a fait un calcul et que si on continue comme ça, on va devoir engager le monde entier, l'humanité entière. Ce qui va nous coûter effectivement beaucoup trop d'argent. Et c'est à ce moment-là qu'ils se disent qu'il serait quand même peut-être temps de revenir à l'ancien système. Pour vous dire un petit peu dans quelle dynamique ils sont. En toile de fond, on découvre également qu'il existe une myriade d'inventions qui peuplent les couloirs de l'entreprise, qui ne servent pas à grand-chose. C'est ainsi que certaines pièces de la société sont à proscrire parce qu'il y vit des bêtes sauvages et ou génétiquement modifiées. On voit de temps en temps un personnage qui en sort avec un bout de veste déchiré. Ah mais non, t'aurais pas dû aller dans cette pièce, etc. La série, en fait, pointe du doigt des méthodes employées par certaines entreprises pour augmenter la production. Par exemple, l'objet ajouté sans raison apparente dans un environnement de travail et qui n'est pas expliqué, en fait, et qui est interprété par les employés soit comme un élément pour les féliciter de leur travail, soit pour les punir de leur travail parce qu'ils n'ont pas assez bien travaillé. Et ici, ça prend la forme d'une veste rouge qui est attribuée de manière totalement aléatoire à un employé. Donc celui-ci, alors, soit croit qu'il la mérite parce qu'il a bien travaillé, et donc ses collègues vont travailler davantage pour essayer de l'avoir aussi à leur tour, ou alors il croit que c'est en guise de punition et il va redoubler d'efforts pour ne plus l'avoir le lendemain, et donc effectivement on augmente la production. Alors on a des idées aussi farfelues comme des tickets qui sont donnés aux employés pour qu'ils gagnent des objets, une sorte de tombola, un surplus d'oxygène qui est envoyé dans le système d'aération pour rendre les employés plus guillerets, ce qui est un petit peu ennuyeux parce que c'est à ce moment-là qu'on souhaite un anniversaire à quelqu'un et en allumant les bougies du gâteau il y a la pièce qui explose. Une autre critique, c'est par exemple utiliser la mort d'un employé, parce qu'il y a un employé qui meurt parce qu'il a trop travaillé. Et donc, en fait, la société exploite cette mort en disant, ben voilà, vous devez continuer son projet parce que sinon il serait mort pour rien, etc. Et donc, tout le monde redouble d'efforts pour respecter la mémoire de cet employé. Et effectivement, on voit les dérives que ça peut apporter.
Et ça passe aussi par des petits détails. Moi, je me souviens de l'épisode où il crée ce fauteuil tellement inconfortable qu'on ne sait pas se reposer 5 minutes dedans. Donc, les employés sont forcés de, pendant leurs 8 heures de boulot, de travailler tout le temps, constamment, parce que le fauteuil est tellement inconfortable qu'ils ne savent pas s'appuyer dessus.
Exactement. La série se moque également de la bureaucratie excessive et des messages contradictoires et aliénants qui sont envoyés par l'entreprise. C'est ainsi, par exemple, qu'une faute de frappe dans un mémo qui est envoyé à tous les employés. Le mémo est mal écrit, donc ça encourage les employés à s'insulter. Et alors, on ne peut pas corriger ce mémo. Et donc, pendant tout un épisode, les employés doivent s'insulter. Voilà. Et donc, chaque réunion se termine dans des sortes de pluies d'insultes absolument monstrueuses. Le sexe pendant les heures de bureau est également autorisé, mais sera tarifé. Par exemple, Lem a une liaison autorisée Floride avec une des avocates de la société, mais l'heure qu'il passe avec elle à faire des galipettes lui sera facturée en tant que prestation, puisqu'elle travaille à ce moment-là, évidemment. Au sujet de moquerie, c'est l'éthique des grandes entreprises comme les brainstorming, les briefings, les projets secrets. Il y a un épisode complet qui est d'ailleurs un des plus réussis, qui est consacré au projet Jabberwocky, un projet qui n'existe pas, mais qui, à la suite d'un quiproquo entre Véronica et Ted, finit par devenir le projet phare de la société, puisqu'en fait, Ted fait croire à Véronica qu'il travaille sur ce fameux projet, qu'il invente sur le moment. Et alors, intriguée, Véronica fait le tour du bureau pour en savoir plus. Comme personne n'aime faire croire qu'il n'est pas dans la confidence, la rumeur se répand comme une traînée de poudre et bientôt tout le monde veut travailler avec ce mystérieux projet. Et les grandes pompes de la société finissent par en avoir vent et demandent à Véronica et Ted de le présenter en grande pompe devant tout le monde. Et c'est effectivement difficile de vendre un projet qui n'existe pas. Et donc là, on a une scène absolument extraordinaire avec la présentation du projet avec grand écran, une sorte de keynote à la Apple avec Ted et Véronica, qui est pour moi le summum de la série, puisqu'on va avoir des grands effets de manche, des feux d'artifice, vous allez voir, ça va changer la société. Et en fait, finalement, on n'apprend rien et tout le monde est ravi. C'est assez génial. Que penser de la série au final? Eh bien, c'est dommage pour moi que la série ait cette apparence d'une série comme les autres de prime abord. Et je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas fonctionné. Mais une fois qu'on commence à gratter sous le vernis, eh bien, je trouve que dans les thèmes qu'elle aborde et sa critique de la société, du monde de l'entreprise, elle se montre vraiment pertinente, féroce et méchamment drôle.
On l'aurait compris, c'est une série que tu nous conseilles instamment. Et puis, on se retrouve très très vite pour un prochain dossier aux frontières des séries.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.